et une nouvelle édition de l'économie en question en compagnie de cinq experts aujourd'hui. Professeurs et chercheurs, pour leur demander de commenter l'actualité de la semaine, pour confronter leurs analyses, les rapprocher ou les opposer. C'est ce que l'on verra autour de deux sujets que nous avons choisis comme chaque samedi dans l'actualité nationale et internationale. En France, une croissance revenue qui progresse lentement mais sensiblement, assez sûrement même, semble-t-il, 0,6% au premier trimestre, l'INSEE vient de le dire. Mieux que la zone euro, mieux que le Royaume-Uni, 1% de croissance cette année devient désormais crédible pour le ministre Michel Sapin, et voire plus, l'INSEE d'ailleurs pour sa part table sur 1,2%. Reste à savoir si la reprise qui s'amorce va durer, à quel rythme va croître l'économie au cours des prochains trimestres, si la consommation qui l'attire et qui est favorisée, on le sait, par la baisse du prix du pétrole va se maintenir. Question autour d'autres évolutions encore, l'investissement des entreprises, il ne repart pas franchement, les importations en hausse mais qui augmente bien plus vite que les exportations, surtout l'emploi, encore de mauvais chiffres cette semaine pour le quatrième mois consécutif. Pôle emploi a enregistré en mai une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité. Des chiffres que le ministre du Travail a jugé, je cite, pas interprétables. Une histoire de relance adressée aux demandeurs d'emploi pour leur réinscription avant une date butoir. Peut-être, il n'empêche, le chômage ne recule toujours pas comme on le souhaiterait. On avance souvent un seuil de pourcentage de croissance du PIB, 1,5% pour qu'il commence à baisser. Si cela est exact, nous n'y sommes pas, nous n'y serons pas avant en 2016 au mieux. C'est la grande préoccupation, comment faire profiter l'emploi de cette embellie économique, quelles conditions pour retrouver une dynamique de l'embauche, plus largement, pourquoi l'une et l'autre ne sont-ils plus liés, et pire encore, sont-ils durablement condamnés à rester séparés à l'avenir. Analyse et commentaires de nos invités. France, la reprise est là, mais où est l'emploi ? Et question internationale, nous parlons de la révolution numérique. Nous ne serons pas très loin de notre premier thème. Révolution qui est partout, depuis longtemps annoncée, bien installée désormais, et elle prend de multiples formes. Nous partirons, nous, de l'actualité française de cette semaine. Bien sûr, la révolte des taxis, bousculée par le succès des transports via les applications numériques. Oublions la marque, le phénomène de l'ubérisation, le mot fait florès. L'ubérisation, donc, de l'économie est bien en marche. Il touche beaucoup d'autres secteurs. Il se répand d'un bout à l'autre de la planète, pour le meilleur et pour le pire. C'est notre deuxième thème. Économie numérique, menace ou promesse pour l'économie traditionnelle. Et nous sommes ce matin en compagnie de Christine Herel, économiste chercheuse au Centre d'études de l'emploi, d'Alexandra Roulet, doctorante à Harvard, de David Tesmar, professeur de finance à l'École des hautes études commerciales. Raoul Sampognaro nous a rejoint aussi, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. Et Pierre-Noël Giraud, professeur d'économie, lui à Mines, Paris Tech, qui nous parlera notamment de son... de la fabrique de l'industrie, voilà. Pardon.
D'un rapport de la fabrique de l'industrie.
Un think tank tout à fait efficace. On parlera d'allègement du coût du travail et il va y avoir débat, je pense, avec vos collègues ici présents. Bienvenue à tous, c'est bien l'économie en question. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On commence donc par le sujet sur la France, la reprise. Et là, c'est le rapport de l'OFCE, notamment, qui nous le dit. Raoul Sampognaro, vous allez en donner des détails. Il vient de paraître dans vos perspectives économiques. La reprise, enfin, avec un grand point d'exclamation. Alors, on va revenir, bien sûr, sur l'emploi qui ne l'accompagne pas. Mais d'abord, vos chiffres qui rejoignent quand même les analyses optimistes également de l'INSEE.
Oui.
On ne va pas se cacher ce plaisir.
Déjà, merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
Je pense qu'il y a un consensus parmi les économistes. Jamais, depuis la crise des subprimes, les conditions n'étaient réunies pour une vraie reprise. D'une part, le prix du pétrole en baisse soutient le pouvoir d'achat des ménages et la consommation. Il modère le coût des consommations intermédiaires pour les entreprises. D'autre part, l'euro se déprécie et améliore la compétitivité prix des exportateurs. Et la politique monétaire est très accommodante. Elle le restera pour un bon moment. Donc, l'économie française, à nos yeux, elle va enfin recevoir le choc de demande si nécessaire, surtout depuis 2011, pour renouer avec la croissance. Bon, mais ces facteurs sont un peu par essence temporaires. Les effets sont transitoires. Du coup, ils ne suffisent pas à expliquer la relance. Pourquoi on croit à un scénario de relance qui s'affermit?
Voilà, parce que tout ce que vous venez de nous dire, effectivement, nous l'avons traité à plusieurs reprises. C'est dans les commentaires, on profite, la baisse de l'euro, le prix du pétrole, d'accord. Mais pourquoi vous pensez que c'est durable, même si ces conditions-là ne sont pas forcément toujours stables?
Car dans ce contexte où la production redémarre grâce à ces chocs temporaires, il y a la politique de l'offre du gouvernement, le CICE et le pacte de responsabilité qui vont progressivement entrer dans leur phase pleinement opérationnelle. Et du coup, ils devraient commencer à produire ces effets au cours de l'année 2015, plutôt vers la fin 2015. Et du coup, le choc temporaire permettra de résorber à nos yeux les sureffectifs hérités de la crise. Et à un moment où, ce choc de compétitivité arrivera, donc les entreprises auront des marges plus importantes. Oui. Et elles se mettront, elles, pour augmenter leur production, devront embaucher et déclencher un cycle d'investissement qui soutiendra durablement, plus durablement la croissance.
Alors déjà, dans vos deux conclusions, je commençais à voir réagir autour de vous. Les entreprises n'investissent pas, c'est quand même un des grands problèmes que l'on signale aujourd'hui. Et tout ceci, à terme, sera-t-il créateur d'emplois? C'est aussi à vérifier. On nous parle beaucoup, bien sûr, d'une progression légère de l'emploi, mais ce sont des emplois aidés. On revient sur tout ça. Alexandra Roulet, David Tesmarc, je voyais aussi hocher la tête.
Oui, je pense que c'est important de comprendre donc, quelle que soit l'amélioration de la conjoncture qui est en effet tirée par des facteurs essentiellement externes, même si il va falloir un petit peu de temps pour que ça se traduise en une amélioration de l'emploi, ça ne va pas non plus régler totalement le problème du chômage. Parce que le problème du chômage en France, il ne date pas de la crise. Donc j'ai posté sur Twitter un petit graphique qui est juste l'évolution du taux de chômage depuis 1975 en France, par classe d'âge, où en fait on voit que d'une part, bon, le taux de chômage c'est essentiellement un problème pour les jeunes, les moins de 25 ans, le taux de chômage est le double de celui des plus de 25 ans, mais surtout que la montée du taux de chômage des jeunes, elle a commencé dès la fin des années 70, et dans les années 90, on avait déjà des taux de chômage des jeunes de l'ordre de 25%. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des phénomènes beaucoup plus structurels c'est pas simplement une amélioration de la conjoncture qui permettra de régler le problème de l'emploi. Et donc, ce phénomène structurel, à mon avis, qui est important d'avoir en tête, c'est un phénomène qui a été très bien décrit pour les États-Unis, qui commence à être décrit dans le cas de la France, qui est celui de la polarisation du marché du travail, où finalement, maintenant, on a une demande à la fois de travail très qualifié. Donc ça, c'est le problème de la formation, de faire en sorte que les gens soient suffisamment qualifiés. C'est la question de l'apprentissage, éventuellement, etc. Et de l'autre côté, il y en a une demande de travail non qualifié, mais non routinier. Donc tout ce qui ne peut pas être automatisable. Donc ça, c'est par exemple les services à la personne, c'est par exemple la restauration. Et là, il y a une espèce de gros gisement d'emplois dont la France ne profite pas forcément. Et la question, c'est un choix de société. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui décident de profiter de ces gisements d'emplois au prix de jobs précaires. C'est ce qu'on entend partout, les mini-jobs, les contrats zéro heure, etc. Donc, on est un peu face à un choix de société. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut, c'est avoir en tête qu'on a deux objectifs différents, le chômage d'une part et la lutte contre le chômage d'une part et la lutte contre la précarité d'autre part. Et en fait, il faut baisser le coût du travail encore plus qu'on ne le fait, notamment au niveau du salaire minimum, pour profiter de ces gisements d'emploi et donc le travail non qualifié, non routinier, et avoir des mécanismes qu'on a déjà, comme le RSA activité, qui viennent lutter contre la précarité. Et c'est comme
arriver
ça qu'on pourra
les deux. Je pense que Pierre-Noël Giraud ne sera pas tout à fait sur la même ligne. Auparavant, avant d'en venir, parce qu'on voit bien que vous arrivez direct sur l'emploi les uns et les autres, sur la reprise, David Tesmarc, ce que vient de nous dire Raoul Samponiaro, pensez-vous que c'est... êtes-vous sur une ligne aussi optimiste?
Je ne suis pas conjoncturiste professionnel, mais je...
Hors emploi, si on peut dire.
Oui, un lecteur de cette production-là. Donc, en gros... Raoul a parlé de choc de demande, donc c'est bien ça qui se passe. Il y a un choc de demande extérieur à travers l'euro et puis de demande intérieure aussi à travers
les gains
de pouvoir d'achat qui viennent à partir de la baisse du prix du pétrole. Et donc du coup, vous avez une demande intérieure qui porte la croissance. Donc ce 1,2 que l'INSEE prévoit, qui ressemble un peu, je crois que la BNP, par exemple, j'avais regardé, prévoit le même genre de choses, la Société Générale, probablement l'OFCE est dans le même ordre de grandeur, c'est uniquement porté par la demande intérieure et essentiellement par la consommation.
Et elle peut baisser, cette consommation ?
Donc cette consommation, bah, dans le court terme, probablement pas, dans la mesure où effectivement on s'attend à ce qu'il y ait une reprise de l'emploi, toujours avec un peu de retard, donc du coup ça c'est une partie du pouvoir d'achat. Les salaires ont l'air de croître et les prix ont tendance à être modérés. Donc du coup le pouvoir d'achat réel, c'est-à-dire la masse salariale divisée par le prix, se porte bien et c'est cette pente-là qui va porter la consommation, c'est comme ça que ces prévisions sont faites. Alors après, il y a des tas de petites composantes un peu plus mineures hein, qui peuvent jouer aussi à la marge pour affecter le scénario. On a d'abord le commerce extérieur. Donc là, la contribution du commerce extérieur à la croissance dans les prévisions est assez neutre. La demande mondiale ralentit un petit peu, mais le taux de change de l'euro baisse. Donc du coup, ça se compense un peu. Et puis, il y a l'investissement. Alors l'investissement, il a deux composantes. C'est l'investissement des ménages, c'est-à-dire est-ce que les gens achètent des maisons. Donc ça aussi, ça peut relancer l'activité. Ça, c'est pas là. Et puis, vous avez l'investissement des entreprises. Et là, c'est un peu l'inconnu. Il y a plusieurs facteurs. Quand on regarde les indicateurs de l'INSEE, c'est ce que font les conjoncturistes comme ça. Hein, quand on cherche à prédire un peu à court terme ce qui se passe, les indicateurs amusants, c'est par exemple le taux d'utilisation des capacités de production. Donc, est-ce que les entreprises sont vraiment en train de plafonner sur leurs capacités? Est-ce qu'elles ont besoin d'acheter de nouvelles machines pour produire plus? Ça, il est bas et il est très bas depuis la crise.
Elles hésitent à le faire. Ouais, elles en ont besoin, mais elles hésitent à le faire.
C'est pas, même selon les enquêtes, c'est même pas clair qu'elles en aient vraiment tellement besoin. Parce que le taux d'utilisation des capacités de production est bas depuis la crise. Il n'est pas vraiment remonté au niveau d'avant-crise. Donc il est possible qu'il y ait de la marge. Bon, maintenant, on ne sait pas très bien parce que c'est des enquêtes, donc c'est pas... une autre politique qui pourrait jouer aussi, c'est... évidemment, il y a le fait que le taux de marge se renforme. Donc c'est plus rentable d'investir, donc on investit plus. Et puis, on a plus de cash pour le faire. Il y a aussi une politique du gouvernement dont on va voir les effets, à mon avis, qui seront assez modestes. C'est l'amortissement accéléré. Donc ça, ça a été décidé il y a un mois. On va accélérer plus vite, donc comptablement. En gros, on va payer moins d'impôts. Si on investit cette année, on payera moins d'impôts cette année. On payera plus d'impôts l'année prochaine. Donc les impôts sont retardés dans le temps. Donc ça, est-ce que ça joue? Est-ce que les chefs d'entreprise sont sensibles à ne pas payer d'impôts cette année, même si ça veut dire en payer plus l'année prochaine? Est-ce que ça marche? C'est un peu ça aussi qu'on va voir.
Je vous trouve quand même relativement optimiste, peut-être un peu différemment.
Prudent,
mais
un optimisme prudent.
Optimisme prudent, achetons ça. Si Pierre Noël Giraud le permet, on va voir du côté de Christine Herel, Centre d'études de l'emploi, quelle analyse elle fait de cette conjoncture, reprise ou pas d'abord pour vous, crédible ou pas, Christine Herel. Et je rappelle ce fameux 1,5% de croissance dont on nous dit sans cesse qu'il est nécessaire pour voir bouger l'emploi.
Oui, alors reprise, effectivement, je pense que oui, hein, je fais confiance aux conjoncturistes, effectivement, sur ce point. En ce qui concerne ensuite les ajustements de l'emploi, je voudrais peut-être revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, sur la question des sureffectifs qu'il y aurait encore dans les entreprises aujourd'hui, puisque la crise récente s'est en fait caractérisée en France, mais aussi dans d'autres pays européens, par un sous-ajustement en réalité de l'emploi par rapport à l'ampleur de la récession. Donc on a finalement moins détruit d'emplois que ça n'avait été le cas dans des crises antérieures. Ça s'explique par toute une série de phénomènes qui sont à la fois le soutien des politiques publiques aux entreprises, des dispositifs de politique de l'emploi, y compris dans certains pays comme l'Allemagne par exemple, les dispositifs de chômage partiel. Mais voilà, toute une série de dispositifs qui ont permis d'absorber le choc. Mais il y a aussi par ailleurs des comportements nouveaux des entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle les comportements de rétention de main-d'œuvre. Et ces comportements, on les observe, y compris en France. Hein, on a fait une étude là, récente qui va être publiée en document de travail du CEPREMAP avec Philippe Askenazy sur les tendances de la productivité du travail en Europe. Et dans cette étude, donc, ce qu'on voit bien, c'est que donc, dans le cas français, entre 2008 et 2010, on a 60% des entreprises qui ont fait des réductions d'effectifs, qui n'ont pas touché à l'emploi qualifié. Donc, c'est-à-dire que le point central, c'est que les entreprises ont maintenu de manière très importante leur emploi de niveau qualifié. Et ça, donc, pour des raisons qu'on a peut-être parfois un petit peu de mal à expliquer. Il peut y avoir des caractéristiques, bien sûr, qui tiennent au contexte démographique, si on pense par exemple au cas allemand. Elles veulent se préserver effectivement un volant de main-d'œuvre important parce que ce sera plus difficile dans l'avenir. mais aussi le fait qu'elles ont sans doute en partie changé de comportement vis-à-vis de leur main-d'œuvre en particulier qualifiée, c'est-à-dire que elles sont davantage dans l'idée que cette main-d'œuvre qualifiée, c'est un investissement pour l'avenir. Alors ensuite, la question, c'est qu'évidemment, ça renforce les problèmes d'inégalité, puisque ce que je viens d'évoquer, c'est des ajustements, sous-ajustements de l'emploi, mais qui a surtout bénéficié à l'emploi qualifié. En revanche, l'emploi non qualifié, lui, a davantage suivi la tendance de la conjoncture. Donc ça pose ensuite des problèmes pour les politiques publiques.
Tout à fait. Et là, ça nous met au cœur d'un débat qui va peut-être avoir lieu entre vous, qui a déjà lieu en tout cas dans les textes. Ce rapport de l'OFCE que nous présentait Raoul Sampognaro est un petit peu contesté, on va dire, ou en tout cas battu en brèche par un autre rapport qu'on vient de signaler de la Fabrique de l'Industrie. Pierre-Noël Giraud, si je résume très très vite, l'OFCE est d'accord avec la politique actuelle qui serait plutôt pour... Non, enfin vous allez me dire, Raoul Sampognaro, j'y vais vite, qui serait plutôt pour soutenir les bas salaires. Or, vous ne faites pas la même analyse. Un peu trop vite, mais on va en débattre entre nous.
J'aime bien m'opposer un peu au consensus ambiant.
Vous avez l'impression que c'est vraiment un consensus, cette question-là?
Oui,
alléger les charges des bas salaires.
Et jusqu'à présent, il y a un consensus. Si on prend comme objectif de réduire le chômage, alors il faut... Et si on veut abaisser le coût du travail, il vaut mieux abaisser le coût du travail autour du SMIC que pour des salaires intermédiaires. Bon. Vient de paraître une étude commandée par la Fabrique de l'Industrie, qui, vous avez raison de le rappeler, est un think tank financé par l'industrie, c'est très clair.
L'Union de la métallurgie, voilà, par
l'UIMM, le cercle de l'industrie qui sont les très grandes entreprises et la fédération et le groupement des fédérations industrielles qui représentent plutôt des entreprises moyennes. Bon, c'est clairement donc un
think tank. Il faut bien le rappeler, oui.
Oui, je le rappelle. Et je rappelle aussi que je ne suis pas financé par eux, mais que je suis à leur conseil d'orientation parce que je pense que réfléchir sur l'industrie et les moyens de la réindustrialisation de la France est une grande priorité. Alors, ils ont confié une étude à un universitaire qui a fait tourner des modèles respectablement connus dans la profession, le modèle Némésis, et qui aboutit à la conclusion que si on fait porter 10 milliards d'allègements de charges plutôt sur les salaires entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC plutôt que sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC, alors on crée autant d'emplois et on crée un peu plus de croissance. Et les emplois concrets sont en moyenne plus qualifiés. Bon. Bagarre de modèles, avec la même question et les mêmes données, des économistes excellents arrivent à des conclusions différentes parce qu'ils font des hypothèses en vérité différentes. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de discuter ces hypothèses et comment ce genre d'études nous oblige à voir les choses un peu autrement. Alors, simplement en un mot, ce que cette étude nous conduit à faire, c'est premièrement à abandonner totalement la distinction industrie-service. Et la distinction, on y reviendra tout à l'heure, bien matériel, logiciel. La distinction pertinente, c'est qu'il y a un secteur exposé à la compétition internationale qui a des problèmes de compétitivité, ce qui se traduit dans la balance commerciale et de base. Et par ailleurs, il y a un problème d'emploi. Les deux questions sont liées, mais il faut vraiment distinguer les choses. Voilà. Donc la politique qui est ici préconisée vise à renforcer la compétitivité du secteur exposé, ce que j'appelle moi le secteur
nomade. En clair, le secteur exportateur.
Et ce que disait Alexandra Roulet concerne beaucoup le secteur sédentaire, où en effet il y a un problème de dualisme du marché du travail qu'on connaît parfaitement bien, très peu de CDI, uniquement des CDD, et même au-delà de ça, il y a la question du salariat, posée par Uber, on en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un fait que dans le secteur protégé de la compétition internationale, il y a une problématique de coût du travail, mais il y a encore plus, à mon avis, une problématique de contrat de travail.
Oui. Alors, réaction, effectivement. Donc, en gros, en clair, vous dites les entreprises exportatrices qui offrent des rémunérations plus élevées, mais ce sont elles qui réalisent des gains de productivité supérieurs. Elles en ont besoin et elles n'en profitent pas pour l'instant de ces allègements de charges. Et si pourtant elles en avaient, ça leur permettrait d'augmenter leur part de marché. Ça leur permettrait, oui, bien sûr, tant en exportation qu'en France, d'après ce que vous dites, oui, et de restaurer leur marge et sans doute aussi d'investir. Alexandra Roulet, Raoul Sampognaro, puisqu'on l'a dit, l'OFCE n'arrive pas aux mêmes conclusions.
Oui, sur cette question de l'allègement de charges et sur quel type de salaire il faut faire porter l'allègement de charges, je pense qu'in fine, c'est une question empirique. numérique. Et donc, il faut pour ça attendre les résultats de l'évaluation, par exemple, du CICE. Et pour que les auditeurs qui peuvent avoir l'impression peut-être qu'il y a une sorte de... Comment se fait-il pourquoi est-ce qu'il y a débat? Il faut quand même avoir en tête que donc, il y a deux approches sur cette question. Soit on peut décider, en effet, de faire tourner des modèles, et ça dépend des hypothèses qu'on prend, etc. Et il y a une autre approche qui est l'approche de l'évaluation de politiques mises en place, qui est donc... quand même un tout petit peu différente, où on va essayer, par exemple, d'avoir ce qu'en économie, on appelle des stratégies d'identification, c'est-à-dire de vraiment comparer des choses comparables. Et si on prend une étude qui a été faite par Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo et Thomas Lebarbanchon, ils ont évalué le dispositif zéro charge, donc qui est un dispositif qui, en effet, était assez particulier parce qu'il était temporaire, etc., qui avait été mis en place en 2008. Mais eux, ils avaient trouvé une élasticité très forte de l'allègement de charges qui avait eu lieu là pour le coup sur les bas salaires, sur la demande de travail. Donc ça, j'ai quand même l'impression que les estimations qui sont présentes et dont on dispose, qui ne sont pas exhaustives, elles tendent à montrer qu'il y a plus de il y a un effet plus fort quand on allège le coût du travail dans le bas de la distribution que sur les salaires plus élevés.
Donc vous maintenez contre Pierre-Noël Sirot, Raoul Sampognaro ?
Oui, moi je voulais revenir sur un peu le débat suscité par la prévision de l'OFCE, surtout sur les questions structurelles. En fait, nous on part d'un constat. Ces chocs qu'on a nommés positifs, en fait ils ne font que compenser la politique budgétaire, les effets de la politique budgétaire restrictive. Donc, quelque part, notre prévision de croissance vient plutôt des facteurs structurels de l'économie française. Donc, si on garde un juge de paix, par exemple la Commission européenne, il dit que l'output gap aujourd'hui est plus creusé qu'en 2009. Donc là, il y a une capacité de rebond pour la France. D'autre part, du coup, la croissance viendra de cette capacité de rebond, plus le débat de la croissance potentielle. Donc, on est à fond dans les questions structurelles. Et du coup, notre vision, c'est... Depuis, on ne va pas discuter du niveau même de la croissance potentielle, mais on se pose la question, qu'est-ce qui a changé dans l'économie française depuis 2010 pour se dire on est dans une situation où les rigidités sont plus fortes? Je pense que non, il y a eu des réformes peut-être petites, faibles.
Peut-être pas assez, mais il y en a eu.
Du marché du travail. Il y a eu bientôt des réformes du marché des biens et services. Du côté de l'offre du travail, il y a une réforme des retraites. Donc, quelque part, on voit mal... que la croissance potentielle soit plus faible qu'en 2010-2011. Et le scénario qu'on a retenu, c'est une reprise vraiment similaire à celle de 2010-2011.
Bien. Pourquoi vous avez fait la moue quand on a parlé du rapport de Carcillo Cahuc sur le zéro charge? Il ne s'agit pas de les critiquer,
non,
les personnes,
non,
bien entendu, mais...
C'est juste, des fois, il faut se méfier des élasticités trop importantes.
C'est vrai qu'il y a une élasticité très
élevée. D'une part. Et d'autre part, je voulais revenir...
Sur ce que Pierre-Noël Giraud nous a dit.
Très petit. C'est Xavier Rago et Mathilde Lemoigne, cette semaine, ont publié un document de travail OFCE qui, justement, compare le différentiel de compétitivité France-Allemagne. Et celui-ci s'expliquerait essentiellement par la divergence des coûts des services, qui, les services, quand même, fournissent en service à l'industrie. Et du coup, d'après eux, ça vient plutôt des services plus que dans l'industrie.
Alors, Pierre-Noël Giraud, vous voyez bien.
Ça fait partie.
Pardon, David. Non, répondez rapidement à ce point-là.
Ça fait partie des éléments du débat. Si vous voulez, il y a trois phénomènes économiques qui sont en discussion dans ce débat. Le premier, Alexandra Oulet vient de le dire, c'est si on baisse le coût du SMIC, quelle est l'embauche supplémentaire? L'élasticité de la demande. Bon, il y en a un deuxième. C'est en effet, si on baisse le coût du SMIC, on baisse le prix des services que consomment les entreprises qui exportent. Donc ça améliore leur compétitivité. Bon, là, il faut regarder qu'est-ce qu'elles consomment effectivement. Il semble bien qu'elles ne consomment pas tant que ça et que cet effet soit bon. Mais ça se mesure. Il y a un troisième élément, c'est que si on allège les charges sur les salaires intermédiaires, 1,6, 3,5 fois le SMIC, comme il n'y a pas de chômage à ces niveaux-là, est-ce que cet allègement de charges ne peut pas être immédiatement rattrapé par une augmentation de salaire? Bon, tout ça est très clairement expliqué dans les différents rapports. On peut porter des jugements différents. Ce qui me paraît important n'est pas là. C'est que il faut cesser de raisonner comme si le secteur nomade composé d'emplois exposés à la compétition internationale, devait relever exactement des mêmes politiques que le secteur sédentaire qui, lui, est protégé de la compétition internationale. Ce sur quoi met l'accent ce rapport, c'est que, certes, si on abaissait les charges sur les bas salaires, on crée plus d'emplois tout de suite. Mais il faut regarder les choses en dynamique, parce que ce qui compte, ensuite, c'est que si on allège les charges sur les salaires un peu plus élevés, on va... Si les entreprises investissent, hein, nous sommes d'accord, on va muscler la compétitivité. Et ça,
d'accord,
c'est fondamental. Voilà, c'est ça qui est fondamental.
David Tesmar.
Je crois qu'effectivement, on touche au cœur du débat là, dans votre troisième point, qui est, en fait, il y a un seul débat, en fait, qui est, quand vous diminuez les charges sur les salaires intermédiaires, est-ce que ça fait diminuer le coût du travail ? Donc ça, c'est là où il y a un sujet, qui est donc, que disent ceux qui défendent le ciblage en dessous de ces salaires intermédiaires ? Ils disent, quand il n'y a pas de chômage, en gros, toutes les professions où le salaire moyen est supérieur à 1,5 SMIC, le taux de chômage est de 5% en France. Donc, on est au plein emploi.
Il faut le rappeler, tout à fait.
Donc, on ne peut pas créer d'emplois sur un segment du marché du travail qui est au plein emploi si les industriels, ou non industriels, mais les exportateurs français, disons, de manière générale, trouvent que les ingénieurs sont trop chers ou que les cadres intermédiaires sont trop chers. Dans ce cas-là, il faut en former davantage. C'est plutôt, il faut créer des écoles pour en former davantage plutôt que de chercher à faire baisser les salaires, qui ne baisseront pas, a priori, puisqu'ils peuvent baisser. Donc là, après, la question de savoir si, quand vous baissez les charges, ça fait monter les salaires nets du montant de la baisse de charges, est une question qui a été regardée dans un certain nombre de pays, pas en France, il faut reconnaître. Et là, on faut attendre les évaluations dont parlait Alexandra, qui vont venir dans 6 mois à peu près, si j'ai bien compris, ou 1 an à peu près. Il faut attendre les évaluations... Non, elles vont arriver à l'été, je crois que c'est 2016, l'été 2016, ouais, c'est, hein. C'est l'été avant 2016 qui est prévu avant les présidentielles, ça Philippe Martin en a parlé il me semble à une des dernières émissions. Il faut attendre de voir ce qui va se passer en France. Mais a priori, on ne va pas créer d'emplois dans ce secteur-là, puisque il n'y a déjà pas de réserve en un sens. Il n'y a déjà pas de gens qui sont là, qui peuvent venir occuper ces emplois.
Mais une fois de plus...
Pierre-Noël Giraud.
Une fois de plus, ça on va voir, c'est tout à fait possible, mais le pari qui est fait là... c'est pas tellement directement de créer des emplois dans ce secteur. C'est de monter en gamme dans ce secteur. Et je voudrais insister sur une chose, c'est pour ça que j'aime bien ce que fait la fabrique. La montée en gamme n'est pas une option. Pour personne, pour l'Allemagne, pour la France, comme pour la Chine, il faut monter en gamme.
Oui, bon. Non, mais la montée en gamme... Donc alors, attendez, parce que si on veut revenir au truc... Donc si les salaires ne rattrapent pas, si les salaires nets... par exemple, imaginons que les salaires nets ne répondent pas. Donc les baisses de charges font une baisse et génèrent une baisse de coût du travail. Oui. On ne va pas embaucher davantage d'ingénieurs et de cadres intermédiaires. En revanche, les entreprises vont faire plus de profits.
Oui, et alors toute la question, évidemment, est de savoir ce qu'elles vont faire de ces profits. Bien évidemment. Mais ça, c'est vrai de n'importe quelle dévaluation, qu'elle soit fiscale, etc.
Absolument.
C'est vrai pour les bas salaires aussi. Baisser les charges sociales, c'est augmenter le profit des entreprises. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'elles en font ? Qu'est-ce qu'elles en font ?
Parce que dans le cas des bas salaires,
hein,
dans le cas des bas salaires, vous baissez les charges, vous baissez donc le salaire. Parce que là, il y a du chômage, là, il y a des gens qui ne sont pas employés, donc vous allez les chercher.
Voilà, ce qu'il veut dire, c'est que dans les hauts salaires, on a du plein emploi de toute façon. Christine Herel.
Oui, mais dans ce débat, il ne faut pas oublier non plus, malgré tout, que les embauches n'auront lieu que si, effectivement, il y a une activité économique suffisante pour qu'elles aient lieu. Et donc, on reboucle avec le point de départ, c'est-à-dire que baisse de charges ou pas.
Oui, ce que disent les entreprises, on n'embauche pas si on n'a pas de quoi.
Et ça, on le voit très bien, y compris avec les dispositifs d'emploi aidé, qui n'arrivent pas forcément à trouver preneur, parce que, effectivement, il n'y a pas de. En tout cas, pour ce qui est de ce qui cible le secteur privé, y compris l'apprentissage, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'activité suffisante pour ces dispositifs. Et pour revenir à un point qui a été évoqué tout à l'heure, il me semble que malgré tout, même en France, il y a quand même eu un chômage qui était nettement inférieur, notamment si on prend les chiffres de 2007-2008, juste avant la crise, on était en dessous de 8% dans un contexte conjoncturel qui était aussi nettement différent de celui d'aujourd'hui. Donc, je veux dire, il ne faut pas oublier que le marché du travail ne s'améliorera que si on a de la croissance. Ensuite, effectivement, si on a de la croissance, on peut réfléchir à la manière dont on essaye d'infléchir les tendances concernant, effectivement, emploi qualifié, non qualifié, les problèmes de segmentation du marché du travail, etc.
Oui, mais c'est ici que j'arrive à la question que je...
C'est élevé,
oui,
donc,
c'est ce que j'allais dire.
La composante structurelle est quand même...
C'est élevé, mais malgré tout, on a cette variation qui... Et disons que la sensibilité au cycle, c'est quand même plutôt... à augmenter en France si on compare les années 80 et les années 2000. Donc, on est malgré tout sur quelque chose qui... montre l'importance du soutien de la croissance dans le contexte actuel.
Oui, et ça repose la question des emplois aidés notamment. Mais la question que nous posions en tout début est au fond de savoir si, au fond, croissance et emploi ne sont plus systématiquement liés. C'est-à-dire qu'on peut avoir une reprise ou une croissance satisfaisante, ce qui est quand même ce qui est en train de se passer dans notre pays, mais ne pas être rassuré sur les possibilités d'amélioration de l'emploi. Christine, on est d'accord avec cela. C'est ça qui nous inquiète dans vos analyses.
Je crois que c'est précisément,
là
où on rejoint un peu la conclusion de Pierre-Noël Giraud, qui est que on peut décider d'avoir une politique de compétitivité. avec des instruments destinés à améliorer la compétitivité du pays et avoir une politique de création d'emplois. Et il y a deux objectifs qui nécessitent probablement deux instruments différents. Et la grande erreur du rapport Gallois, ça a été de dire on va faire d'une pierre deux coups. Et c'est ça qui a introduit beaucoup de confusion dans le débat, parce que le gouvernement a pu vendre ça à sa gauche, que c'était une politique d'emploi en même temps qu'une politique de compétitivité, etc. Alors qu'on n'a absolument aucune certitude qu'on puisse atteindre ces deux objectifs avec une seule, a priori, tout ce qui existe dans le monde montre que les salaires nets quand même rattrapent les baisses de charges et que donc du coup l'impact est nul, c'est ce qui s'est déjà fait. Passé, il y a eu un certain nombre d'expériences qui l'ont montré. Peut-être qu'on se trompe en France, peut-être la France est un pays différent des autres pays, mais a priori, ça n'aura pas d'impact sur l'emploi, ça peut en avoir sur la compétitivité, mais même ça, c'est pas sûr.
La France est bien le pays où les charges sociales sont plus élevées que chez nos principaux partenaires, concurrents, vous le confirmez tous.
C'est un peu le problème.
Oui. Malgré les baisses,
Alexandra
en fait,
Roulet.
On a parfois l'impression qu'on a beaucoup de gouvernements successifs depuis plusieurs décennies. On fait des baisses de charges, notamment sur les bas salaires. Et donc, mais il faut quand même avoir en tête que comme le salaire minimum progresse, il progresse bien plus que les allègements de charges. Et du coup, le coût du travail, lui, continue de progresser malgré l'impression qu'on a eu successivement plusieurs fois des allègements de charges sur les bas salaires.
Raoul Sampognaro, puis Christine Herel, peut-être sur ce point.
En tout cas, dès que le pacte de responsabilité sera opérationnel, les charges sur les bas salaires seront plutôt parmi les plus faibles de l'OCDE quand même.
Ça, on va baisser sensiblement.
Mais avec un SMIC net très élevé.
Voilà, mais avec un SMIC élevé.
Il y a la question des charges, il y a la question du SMIC. Donc évidemment, ça c'est une question politique qui nous dépasse un petit peu. Mais idéalement, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir réussir à baisser le SMIC au-delà de pas seulement à travers ces baisses de charges.
Ou alors garder un SMIC net élevé, mais des charges très très faibles dans ce cas-là. Vraiment infime, zéro.
Mais il y a des mécanismes comme le RSA activité qui sont très bien pour venir complémenter les revenus avec des SMIC plus faibles.
Christine Herel, pour conclure sur ce point, mais vous verrez que la transition sera vite trouvée sur le suivant sujet.
Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des objectifs au salaire minimum qui sont aussi des objectifs en matière de qualité de l'emploi, de productivité, etc.
Et bien sûr.
C'est-à-dire que du coup, il y a aussi des effets positifs du fait d'avoir un SMIC qui n'est pas trop faible. Alors après, le niveau optimum, personne ne le connaît, ça c'est certain. Mais voilà, il ne faut pas oublier les effets potentiellement favorables.
Et à l'inverse, il ne faut pas oublier non plus les effets désastreux d'autres politiques que l'on peut observer chez nos voisins européens. On va peut-être y revenir.
Il faut juste aussi comprendre qu'il y a un ensemble d'emplois qui se développent notamment dans les services où la productivité est assez faible. Donc finalement, c'est quand même normal que la rémunération pour ce type de travail soit faible, même si on vient en effet la complémenter par d'autres mécanismes qui visent spécifiquement à lutter contre le problème de la pauvreté et de la précarité.
Alors, j'ai fait une transition un peu facile peut-être, mais on sait que certains très bas salaires peuvent être complétés par d'autres pratiques et nous voici dans le phénomène Uber.
France Culture, l'économie en question, Dominique Rousset.
C'est effectivement une actualité cette semaine, mais à vrai dire, nous avions prévu de parler de révolution numérique auparavant. Et disons que cette actualité, ce n'est pas forcément surprenant, mais tombe à pic pour y revenir. On va peut-être insister, c'est tellement vaste, l'industrie de la révolution numérique. Je ne sais pas ce que les uns et les autres vous avez préparé ou choisi d'illustrer. Je vous propose quand même de partir de ce phénomène. Alors le terme d'ubérisation, je l'ai dit, rencontre un grand succès. Il est assez moche, c'est un néologisme, mais il a le mérite d'être très clair, surtout avec ce que nous observons ces jours-ci en France. Mais rappelons que cette entreprise californienne est en train de s'étendre partout dans le monde avec des fortunes diverses. J'ai appris aussi en préparant notre dossier qu'en Californie, l'embauche est obligatoire dans les entreprises Uber. Est-ce vrai, David Tesmar ?
Je crois que c'est un avis.
C'est un avis, c'est pas encore appliqué. Dans d'autres pays, on le sait, on lutte fortement. Alors après, il faut distinguer Uber, en gros, parce qu'on parle que d'Uber, mais il y en a beaucoup d'autres, les voitures de transport privé et le phénomène Uber Pop qui fait appel à tout le monde. Je crois qu'on a bien compris la distinction ces jours-ci en France. Plus largement, donc, les secteurs économiques qui ont déjà fait les frais de la révolution numérique, appelons-la ainsi, bien sûr, l'industrie du disque, l'industrie de la pharmacie, l'industrie de l'hôtellerie, je peux en citer beaucoup d'autres encore, celle du livre, naturellement, donc le monde de la culture a été sans doute le premier touché, et on le voit dans les termes, on en parle en termes forcément négatifs, attaqué, touché, menacé. Est-ce ainsi qu'il faut en parler ? C'est la première question. David Tesmar, qui s'y intéresse de près. On sait que vous connaissez bien.
Petit expert mondial. Donc, non, on parle. Donc, on parle d'un segment particulier hein, du secteur numérique qui est, en gros, là, je pense, hein, c'est. Donc, vous faites référence à l'hôtellerie, au taxi, etc.
On va citer quelques marques, hein, Airbnb, ouais, que tout le monde connaît.
Donc, vous parlez de plateformes d'échange, en fait. Hein, donc, c'est ce qui a été permis. Donc, c'est vraiment les plateformes d'échange. Donc, la logique d'une plateforme d'échange, c'est une logique un peu de marché financier. C'est-à-dire que vous avez des demandes d'achat et de vente en permanence, des gens qui s'en vont de chez eux pendant deux semaines pour aller en vacances, qui ont un appartement vide, qui veulent occuper, etc. Donc, on mutualise un peu tous ces risques individuels dans une plateforme qui va permettre aux gens qui veulent rester deux semaines dans l'appartement en question de pouvoir trouver un logement pas cher, etc. Donc, ça, c'est la logique de ces plateformes. Donc, ça, c'est une création de richesse énorme. Parce qu'on a ces voitures qui ne sont pas utilisées, ou ces gens qui ont deux heures de libre après le travail et qui veulent un peu mettre du beurre dans les épinards, etc., etc. Donc vous avez tout ça, c'est une création de richesse.
Ça génère beaucoup de richesse.
Donc il y a vraiment une création de richesse pour la société dans son ensemble. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'elle va être distribuée dans les différents acteurs. Donc ça pose deux questions, la question de la concurrence et la question de la fiscalité. La question de la concurrence... Bon, ben voilà, donc la question c'est est-ce que par exemple un chauffeur Uber par exemple est plus malheureux en travaillant chez Uber que l'alternative ? D'accord ? Est-ce que pour lui, l'alternative, bon, c'est difficile dans la mesure où Uber ne peut pas forcer les gens à travailler pour lui, c'est forcément que les gens y gagnent. Donc, du point de vue du marché du travail, ça a l'air à peu près raisonnable.
Enfin, il doit savoir qu'il n'a aucune protection sociale, il doit savoir que c'est lui qui doit s'assurer, il doit savoir.
Ben, non, normalement, il est auto-entrepreneur, auquel cas il contribue très largement. Oui. D'accord, donc là, on va venir à la fiscalité.
D'accord.
Ensuite, vous avez la concurrence vis-à-vis des consommateurs. Donc, ça, les consommateurs d'Uber sont très contents. Donc, là, de ce point de vue-là, ça, si ça se pose pas un problème. Après, il y a la question de ce que la plateforme elle-même génère comme profit. Donc là, ça dépend des plateformes. Il y en a qui font des profits, qui les délocalisent, etc. Donc là, on retombe dans la logique un peu de l'Internet avec des profits délocalisés et de l'évasion fiscale. Dans le cas de certaines de ces plateformes, ne font pas de profit. Hein. Je crois que c'est le cas d'Uber. Donc par exemple, là, en l'occurrence, il n'y a même pas d'évasion fiscale d'impôt sur les bénéfices. Alors après, sur les impôts proprement parlés, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces plateformes fonctionnent sur le cœur. Hein, l'actif critique de ces plateformes, c'est un système d'information qui met en lien, exactement comme la bourse met en lien les ordres d'achat et les ordres de demande, et bien là, on met en lien la demande de taxi, l'offre de taxi ou l'inverse, ou de logement, etc. Donc là, si vous avez ce système d'information, ce que peut faire très facilement le fisc, c'est se brancher directement sur le système d'information et observer les transactions. À partir du moment où les transactions sont observées, elles sont taxables. Et de fait, par exemple, on peut très bien... Enfin, pour un chauffeur Uber, le statut est normalement exigé, c'est le statut d'auto-entrepreneur pour lequel vous avez des cotisations sociales et vous avez une couverture sociale. Le fisc est en mesure de l'exiger, sous peine par exemple de fermer l'application.
Donc tout est
complètement contrôlable. Et c'est d'autant plus contrôlable qu'on a affaire à des monopoles quasiment. Bon, qui sont en concurrence les uns avec les autres sur des marchés, un peu des segments qui sont substituables. Mais en gros, on a affaire à des entités assez uniques, donc assez faciles à réguler au contraire.
Alors, que pensez donc de ces ruptures numériques? On en mettra en ligne, hein, j'attire attention sur un rapport très intéressant là, qui vient de sortir, qui montre effectivement ses avantages et ses inconvénients dans l'évolution numérique. Ce sont eux qui parlent de rupture. Et en fait, en gros, c'est toutes les technologies, on parle des taxis, mais on va en sortir, qui, au-delà du progrès technique, portent une nouvelle proposition de valeur susceptible de redéfinir nos modèles économiques. On y est bien. Ouais. Alexandra Roulet, puis oui. Pierre-Noël Giraud.
Je voudrais prendre l'exemple du secteur culturel parce que je trouve qu'il illustre bien en fait les promesses et les menaces un peu du numérique. Donc en fait, pour les consommateurs, pour avoir accès à du contenu, que ce soit musique, séries télévisées, films, le numérique est vraiment plein de promesses. Mais évidemment, ça pose la question de comment on protège la propriété intellectuelle et notamment les droits d'auteur des artistes pour permettre que la création artistique continue. Et on voit bien qu'ici, la réglementation est toujours un peu en retard. Donc par exemple, la loi Adopi qui vise à justement sanctionner le téléchargement illégal, elle n'est pas efficace pour lutter contre la forme la plus répandue maintenant de visionnage illégal qui est le streaming. Elle en est encore restée finalement à ce qu'on appelle le pair-to-pair. Mais enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que la technologie avance toujours plus vite que la réglementation. Et en fait, la réglementation a du mal à suivre la vitesse du changement.
Derrière.
Et du coup, à la fois, c'est
tout le monde court derrière, hein, nous aussi.
Oui, mais les consommateurs sont plus rapides à s'adapter aux nouveautés que la réglementation. Et du coup, ça illustre bien, je trouve, à la fois toutes ces promesses pour le consommateur en termes d'un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus immédiat au contenu culturel, et en même temps, vraiment la nécessité de trouver un cadre légal et de s'adapter très rapidement aux pratiques dominantes pour permettre de protéger tout simplement la production culturelle.
Oui, analyse encore, Pierre-Noël Giraud, Christine Rell. Pierre-Noël.
Moi, je vais dire des choses assez générales. D'abord, ça ne sert à rien d'essayer de s'opposer aux évolutions techniques. Bon, c'est quand même une leçon. Enfin, c'est tellement évident pour des économistes qu'on oublie de le rappeler.
Interdire une application est impensable.
C'est absolument
ça a été évoqué, c'est impensable.
Deuxième.
Je pose la question. Oui.
Bah, je sais pas, il y a quand même des règles dans la société, quand même. Dans l'économie.
Non. Mais s'opposer, c'est pas réglementé.
Oui, on est d'accord.
Donc, c'est inévitable, ça va continuer à se déployer, et je crois même qu'on peut dire qu'on n'en est qu'au début de la révolution numérique. Moi, je suis au conseil scientifique de certaines entreprises numériques.
On n'a rien vu.
Et je vous assure que quand on voit défiler les projets de recherche en cours, on n'a rien vu. Bon. Deuxièmement, c'est une bonne chose. Dans l'ensemble, c'est une très bonne chose pour les hommes. Ça facilite la vie. Bon. Moi, je crois que le point fondamental, c'est que ça attaque le salariat, c'est tout. Ça attaque le salariat traditionnel.
Voilà.
C'est incompatible avec ce qu'on était habitué à connaître comme type de rapport salarial. Et la preuve en est, c'est que le mot auto-entrepreneur est immédiatement venu dans la conversation, parce que c'est ça dont il s'agit. Donc, finalement, les questions sont essentiellement comment est-ce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un individu puisse passer toute sa vie à ne jamais être salarié et à être auto-entrepreneur avec 3-4 activités différentes et en plus changeant d'activité tout le long de sa vie? Comment faire pour que cet individu ait finalement les mêmes filets de sécurité, la même retraite, le même droit de se former et de changer que ce qu'avait un salarié? C'est ça l'enjeu.
Oui, le morcellement du travail, pardon Raoul Sampagnaro, puis d'abord Christine Rell,
oui, mais je suis
spécialiste de l'emploi,
on l'a dit. Totalement d'accord effectivement avec cette analyse, c'est-à-dire que ce qu'on observe dans tous les pays, c'est une croissance de l'emploi indépendant, c'est quelque chose qui est très marqué dans le courant des dernières années, et ça malgré la crise, donc ça montre bien qu'effectivement il y a des choses qui... Alors, une partie de substitution qui sont aussi liées à la montée du chômage, mais malgré tout, c'est à long terme. Le problème qui se pose, c'est bien celui des morceaux d'emploi qu'on pourra avoir avec des statuts différents. Ce n'est pas forcément d'ailleurs toute une carrière sur un statut d'auto-entrepreneur. Ça peut aussi être avec une partie de salariat à temps partiel. Voilà. Et ça, les systèmes de protection sociale tels qu'ils existent actuellement ne sont pas faits pour les prendre en charge correctement. Donc,
ouais. Mais exemple avec les taxis, l'Angleterre est également concernée. Hein, et The Economist, qui est très, très lu, comme on le sait, pas seulement en Angleterre, a fait sa une sur ce sujet. On parle en fait de ces chauffeurs-là, vous dites bien sûr ils peuvent être déclarés, les réglementations existent, mais enfin c'est à eux qu'incombe la charge à la fois du financement de leurs véhicules, de leurs assurances, et on est sur un système de « workers on tap », nous dit des économistes, c'est-à-dire de main-d'œuvre à la demande en fait. C'est une force de travail qui est disponible, je le cite encore, comme l'eau sortant du robinet, que l'on ouvre, que l'on ferme à volonté.
Oui, mais on retrouve
ça pose de vraies questions sur le salariat, comme disait Pierre-Noël
Giraud. Oui, avec une logique qui parfois qu'on peut retrouver même dans le salariat lui-même, avec la question des zero hours contract au Royaume-Uni, par exemple, qui rejoignent cette idée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on trouve pas seulement du côté de l'emploi indépendant, mais aussi aux marges du salariat, en fait. Cette logique de flexibilité totale et de travail complètement à la demande. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et face à quoi, effectivement, les régimes actuels de protection sociale sont en difficulté. Alors notamment, je pense...
Son prix de vitesse, on peut dire, peut-être.
Oui, mais peut-être encore plus quand même, justement, dans les pays anglo-saxons qui ont des logiques de financement de la protection sociale qui sont différentes des nôtres. Nous, on a des morceaux de protection sociale liés à la tradition assurantielle du système français qui font qu'on a finalement le droit quand même assez facilement de cumuler différents droits. Donc on va être auto-entrepreneur et être salarié et ça va donner des droits. Les deux vont donner des droits à la retraite, par exemple. Au Royaume-Uni, c'est pas si simple puisqu'on est dans un système qui est un système beveridgien où on va avoir le minimum, mais si on n'a pas cotisé suffisamment dans un système de retraite pour le coup fonctionne sur des modalités différentes, on n'aura au final rien en termes de retraite complémentaire. On va avoir le niveau de base. Donc, je pense que ce danger menace encore
quand
plus
même
les systèmes beveridgiens que les systèmes bismarckiens.
Oui, oui, de manière quand même assez préoccupante. Raoul Samponaro, que sait-on de ces travailleurs d'ailleurs? Ils sont déjà très très nombreux dans le monde.
Justement, je voulais aller dans le sens de ce que Christine vient de dire. C'est certainement, il y a une question de financement de la protection sociale, ça c'est indéniable, mais il y a d'autres changements qui doivent être pensés sur, dans de la protection sociale. C'est en particulier, je vais faire une caricature, mais à l'époque des mineurs, la médecine du travail se préoccupait des problèmes respiratoires. À l'époque d'Uber, on sait bien que les entrepreneurs sont soumis à plus de stress, à plus d'incertitudes vis-à-vis de leur travail, de leur rythme de travail, de leur salaire. Et du coup, ça pose des nouveaux problèmes qui ont été évalués aux États-Unis par des spécialistes de la médecine du travail, comme quoi ils sont soumis à plus de stress.
Oui, il existe déjà des études sur le sujet. Hein. Vous m'en aviez parlé aux États-Unis.
Mais sinon, je voulais revenir sur d'un point de vue plus général. Moi, je pense que ce type de réforme, on va dire, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec Uber et les taxis? On ne peut pas simplement le penser d'un point de vue technologique. Il n'y a pas de doute que dans un monde sans coût de transaction et sans asymétrie d'information, un monde parfait, Uber, c'est optimal, il faudrait utiliser tout de suite ce type d'algorithme. Mais on est dans des mondes un peu plus compliqués, où il y a des coûts de transaction, où il y a des asymétries d'information. Et du coup, il faut viser, comme dirait Danny Roderick, il faut plutôt penser les second best et comment tous ces coûts de transaction interagissent entre eux. Et en fait, le débat sur les taxis est quasiment dans le même terme que celui de Wipsloss en 2004-2005, où finalement, le gros problème, c'est les licences des taxis. Si on pouvait rémunérer les licences des taxis, le problème serait beaucoup plus simple à régler, quelque part.
Si l'État français rachetait toutes les licences, vous voulez dire?
C'est pas sûr.
C'est pas sûr, ça serait un peu cher, mais cela dit, on ne sait pas du tout comment ça peut.
Ça serait logique. Non, mais il y avait plein de techniques, les gens avaient réfléchi. Il y a une technique de donner une licence supplémentaire à chaque taxi, comme ça, chaque taxi a une deuxième licence qu'il peut vendre.
Oui, ça a été proposé. Et il y avait pourquoi vous parlez au passé, on peut encore l'organiser.
Oui, mais ça n'a pas été fait, oui, non, parce que les taxis s'y sont opposés, ce qui n'était probablement pas une bonne idée à l'époque.
Bien sûr.
Parce que ça s'est retourné un peu contre eux. Non, ce qu'on sait sur... Donc, il y a une étude qui a été faite par Uber, qui a été publiée l'année dernière par un professeur de Princeton qui s'appelle Alan Krueger, qui est un grand économiste américain. Donc, ils ont regardé les données. Qu'est-ce qu'ils trouvent sur... ils ont fait des sondages. Hein. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que... Donc, il y a la question de savoir si la flexibilité est choisie ou subie. Ça a l'air, les gens disent, il faut prendre ses précautions, mais les gens disent que c'est là, en grande partie choisi, qu'il y a des volontés d'avoir des horaires plus aménagés, plus souples, etc. Donc il y a quand même la flexibilité, pas toujours une charge, c'est parfois un désir. Et puis sinon, sur le plan démographique, c'est clair, les chauffeurs d'Uber sont plus jeunes que les chauffeurs moyens de taxi moyen, ils ont plus d'enfants, ils ont fait plus d'études, etc. Enfin, il y a tout, c'est plus des femmes aussi, etc. Enfin bref, voilà. Donc les auditeurs peuvent regarder cette étude si ça les intéresse. Je crois que sur le salariat, c'est vrai qu'il y a la question de ça attaque le salariat. Pour l'instant, juste pour relativiser un petit peu le constat, pour l'instant, la part de personnes, si on regarde les données américaines, je suis persuadé qu'en France, ça doit être assez similaire, même si je n'ai pas regardé. La part de personnes qui sont à leur compte a tendance à diminuer dans l'économie.
Ah oui.
Et elle ne remonte pas, en partie parce qu'il y a un effet de composition. Donc vous avez plus de gens qui sont à leur compte dans les secteurs tertiaires et moins de paysans. Donc les paysans sont traditionnellement à leur compte.
Hein. C'est quand même dans l'histoire. Sur les dernières années, il y a une augmentation. Oui, en France, de l'emploi indépendant.
L'emploi indépendant augmente en France. Donc c'est différent des États-Unis.
Les États-Unis, en revanche, il a tendance à baisser, on se regroupe plus.
Mais vous avez des dynamiques différentes. Vous avez les fermiers, vous avez moins de fermiers. Le fermier, c'est assez intéressant. Le fermier est un cas d'école intéressant, d'ailleurs, dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'il est à son compte. Il a toujours été à son compte. Il n'y a jamais eu de multinationale
On est en train de parler quoi de bousculer une économie que l'on pourrait juger en déclin, d'après ce que vous dites, qui est tellement innovant et tellement différent. Mais pour l'instant, du moins au prix de conditions et de réglementations du travail qui sont pour le moins dangereuses.
Mais pas du tout. L'auto-entrepreneur est un statut qui vous donne accès à de la protection sociale et vous payez vos impôts.
Quand on parvient au statut d'auto-entrepreneur,
c'est un morceau d'emploi quand même. C'est-à-dire qu'auto-entrepreneur, c'est avec un chiffre d'affaires qui reste limité. Donc il faut aller au-delà. Il faut que les auto-entrepreneurs puissent effectivement passer à un emploi avec des revenus suffisants. ou bien qu'ils aient, que ce soit un cumul avec effectivement une autre activité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait effectivement pour gérer ces morceaux d'emploi. Mais auto-entrepreneur, c'est pas une activité à temps plein.
Bah, 30 000 euros de facture, moins les charges, c'est un SMIC et demi quand même, c'est le salaire médian français.
Oui, mais enfin, on peut pas imaginer que tout le monde...
Un objectif de carrière d'un auto-entrepreneur...
Ah, d'accord. Non, mais on parle du salaire médian quand même.
Parce que on parle aussi de dynamique ensuite et de trajectoire des individus. Moi, je voudrais juste revenir peut-être sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui est aussi important, c'est de voir que le numérique en général, donc au-delà des questions qu'on évoque là, des taxis, etc., ça a aussi des conséquences importantes sur le travail des salariés plus généralement. C'est-à-dire c'est la question de l'intensification du travail que là, on retrouve, y compris pour les gens qui sont en CDI stable et à temps plein. C'est-à-dire que l'impact va bien au-delà des marges du marché du travail. C'est aussi vraiment
le
cœur du salariat, d'ailleurs, qui est pour le coup impacté par ces évolutions du numérique.
Bien sûr, qui est très, très bousculé aussi.
Ça se voit bien dans toutes les enquêtes sur les conditions de travail. On n'a pas de pause dans l'intensification, malgré le fait qu'on ait eu, par exemple, la crise, d'ailleurs, récemment non plus.
D'où les phénomènes que nous signalait Raoul Sampo-Niarok. Les États-Unis commencent à observer massivement. Pierre-Noël Giraud, j'ai encore une petite question pour vous, Raoul Sampo-Niarok.
Je disais qu'on en était au début de des effets de cette révolution numérique. Alors, on vient d'évoquer la question du statut de l'emploi, mais je voudrais insister, ça bouleverse aussi la façon de travailler. Par exemple, de plus en plus se développe non pas le travail à domicile, mais on sort de chez soi, on va non pas au bistrot du quartier, mais dans un local du quartier dans lequel on trouve des employés d'autres entreprises. On est un salarié ordinaire, sauf qu'on travaille dans un espèce de café internet en bas de chez soi, ce qui combine à la fois, la possibilité de contrôle que donne toujours le fait d'être branché chez soi, quand est-ce qu'on travaille, etc., avec une espèce de sociabilité inter-entreprise. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se développent. Ça permet un contrôle des employés effarant.
Moi,
j'ai vu un projet de recherche récemment absolument effarant. On sait combien de temps vous avez pris pour faire pipi, etc.
Quelle toilette
vous fréquentez. C'est tout à fait accessible.
Sous des dehors libertaires, d'ailleurs.
Sous des dehors absolument libertaires. Donc, ça va bien au-delà. Enfin, je pense que la question du contrat de travail est très importante, mais aussi la question du travail lui-même, de où on travaille, de avec qui on travaille, et de comment on est surveillé, etc. Tout ça va être totalement bouleversé.
Et voyez comment une seule intervention, vous avez cité le meilleur et le pire, c'est-à-dire la convivialité, pourquoi pas, d'entreprises qui vont se rejoindre et s'interconnecter entre elles, qui est quand même remarquable, et les dangers que vous signalez dans ces travaux de recherche.
La nécessité de fixer des limites, d'y réfléchir et de les faire évoluer.
Alexandra Roulet.
Non, je pense que tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et surtout la question de la protection sociale quand même me paraît vraiment fondamentale, même si le travail indépendant est peut-être pas encore aussi développé qu'il l'est, mettons, au Royaume-Uni, où il s'est vraiment beaucoup développé ces dernières années. Clairement, à horizon, je ne sais pas, même 50 ans, on sent que c'est amené à prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc, penser la protection sociale dans un monde où l'espérance de vie est beaucoup plus élevée, où les parcours d'emploi sont beaucoup plus fragmentés, avec différents types de travail, différents employeurs, c'est vraiment important d'entamer cette réflexion le plus en amont possible et essayer d'anticiper au maximum les changements à venir.
Oui, nous n'avons pas du tout évoqué, parce qu'il fallait bien nous centrer sur un thème, et c'est immense, hein, on voit bien le numérique, un aspect que je voudrais voir très vite avec Raoul Sampo-Niarok, qui est, si vous le permet de le dire, uruguayen, et ça nous permet d'aller voir un petit peu ailleurs ce qu'il se passe. On n'a pas du tout parlé des MOOC, ces fameux cours que vous connaissez tous, enseignants et chercheurs, professeurs que vous êtes. Et sur l'aspect de l'éducation en général, on a distribué dans votre pays, Raoul Sampo-Niarok, dont on connaît le niveau économique, c'est très intéressant de le dire, des ordinateurs dans toutes les écoles. Là, je redescends des MOOC vers le niveau scolaire, et on a déjà un instrument de mesure. C'était il y a combien de temps ?
C'est ça. C'était en 2004. Le programme a commencé en 2004. L'Uruguay, c'était le premier pays à développer massivement le programme One Laptop Per Children. Et comme c'est un petit pays assez homogène, c'est assez facile de lancer ce type d'opération d'envergure. En fait, du coup, comme ça date de 2004, aujourd'hui, on a un peu de recul, on a fait des premières évaluations. Et finalement, on constate, au-delà d'avoir distribué des ordinateurs, ils ont essayé aussi d'intégrer le numérique dans l'enseignement. Et grosso modo, les premiers résultats montrent qu'il y a certains effets sur certaines capacités cognitives des élèves. Mais par contre, elles ne se traduisent pas forcément dans des améliorations dans la réussite scolaire, dans les tests.
Ah, mais ça, c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Et les auteurs montrent qu'il y a une vraie hétérogénéité entre les profs qui ont reçu et suivi des formations sur comment intégrer le numérique dans leur classe et ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas appliqué toutes ces consignes-là. Du coup, on voit bien que l'intégration d'une technologie ne suffit pas à elle seule, même si elle est très bonne. Il faut vraiment l'intégrer dans un contexte et je pense que c'est un enseignement important pour ce type de débat.
Dont acte. Merci pour cette information invisible, hein, on va l'appeler puisqu'on les connaît chez nous.
Juste pour rebondir sur le numérique et l'éducation, vous parliez des MOOC tout à l'heure, donc en fait des cours qui sont disponibles en ligne. Donc à Harvard, ça a été quand même assez développé et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait il y a énormément de cours où le premier cours est téléchargé et en fait après les gens ne suivent pas du tout l'intégralité des cours qui sont pourtant disponibles en ligne tout au long du semestre. Donc on voit bien que c'est difficile de... Il y a à la fois, encore une fois, toute cette promesse de on a accès à des cours de grands pontes comme ça qu'on peut juste visionner chez soi. Et en même temps, si on veut vraiment faire l'effort d'apprentissage et les devoirs qui vont avec et suivre jusqu'au bout le cursus qui est proposé, finalement, c'est je sais pas, 80% des gens ne vont pas au-delà d'une vidéo, quoi. Donc
C'est encore à corriger, voilà. Oui. On n'y est pas tout à fait. Merci à vous tous. Alexandra, qui est doctorante à Harvard, donc elle sait de quoi elle parle. On va terminer avec David Tesmar, quelques informations sur notre prochain rendez-vous. Ce sera aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où nous sommes avec France Culture chaque année, sur un thème que nous avons bien largement abordé aujourd'hui. Et si le travail était la solution, ce sera le 3, 4, 5 juillet, Rencontres économiques d'Aix, David Tesmar qui accueille des chercheurs, bien entendu des économistes, mais aussi de nombreuses entreprises, des politiques. Et pourquoi ce thème ?
Alors, on observe, là on vient d'en discuter quasiment pendant une heure, on observe un choc technologique massif qui frappe toutes les économies avancées, enfin ou émergentes d'ailleurs, mais très particulièrement les économies avancées, qui n'est pas nouveau. Et d'ailleurs c'est un débat un peu ancien, mais qui a ressurgi récemment, mais qui est un débat qui date des années 90, où la diffusion du progrès technologique, de l'automatisation, d'informatisation, des réseaux Internet, etc., considéré par beaucoup d'économistes comme un facteur puissant de création des inégalités, hein, comme le facteur de premier ordre de création des inégalités, avec une polarisation, comme l'a rappelé Alexandra tout à l'heure, du marché du travail vers la destruction des emplois intermédiaires, la création d'emplois très qualifiés, etc., et puis la création d'emplois non qualifiés, mais non mécanisables, non routinisables, donc de services... Et donc, du coup, dans cet univers-là, beaucoup de gens se posent plein de questions, à savoir est-ce qu'il restera de l'emploi pour tout le monde, par exemple ? Est-ce qu'on ne sera pas tous remplacés par des robots ? Donc ça, il y a eu un débat, le débat a ressurgi. Quand on vieillit un peu comme moi, on réalise qu'il y a des cycles dans ces débats et qu'à la fin des années 90, à la fin des milieu des années 2000, dans 15 ans, ça reviendra certainement. Donc là, la conjoncture intellectuelle est telle que les gens se posent toutes ces questions, savoir est-ce qu'on peut être encore heureux au travail, en particulier dans des emplois non qualifiés, est-ce qu'on peut avoir un emploi pour toute sa vie, que devient la frontière entre salarié et entrepreneuriat, est-ce qu'il y aura encore des emplois, etc., quelle forme ils auront, comment former, etc. Et donc, du coup, toutes ces questions sont revenues et ça nous a semblé être un bon moment pour parler de toutes ces questions-là. Donc, on va avoir des sessions sur tous ces sujets-là, hein, à la fois sur le diagnostic, hein, donc d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins d'emploi, etc. D'où ça vient, est-ce que c'est le progrès technique, est-ce que c'est la mondialisation, est-ce que c'est la pression financière qui s'exerce sur les entreprises, etc. Comment s'adapter, quel code du travail, est-ce qu'on peut s'épanouir au travail, même on va aller jusqu'à se poser ce genre de questions-là. Et notre réponse, c'est globalement oui, c'est possible de réagir, c'est possible de s'épanouir au travail. Et donc, du coup, le travail est la solution. C'est posé comme une question, mais c'est une question rhétorique.
À condition,
la réponse est oui.
À condition d'en avoir. La révolution du travail crée-t-elle le progrès social ? Ça fait encore un autre débat. Et tenez, je viens jusqu'au sujet du bac économique et social. C'est pas tout à fait une actualité invisible pour les parents des nombreux bacheliers. Mais le sujet était celui-ci dans les sections ES. Dans quelle mesure l'action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités? Vous voyez qu'on boucle la boucle. Merci et merci à tous les cinq. Raoul Sampognaro de l'OFCE, David Tesmar, que l'on vient d'entendre, du Cercle des économistes, professeur à HEC, Alexandra Roulet, Pierre-Noël Giraud, merci pour son rapport sur la fabrique de l'industrie, et Christine Herrel, spécialiste des questions de l'emploi au Centre d'études de l'emploi. Nous vous retrouvons, nous, samedi prochain, donc, pour la dernière émission de la saison, et ce sera à Aix-en-Provence, comme vous l'avez compris. Merci à notre petite équipe habituelle, Ghislaine David, qui réalisait notre émission, Laurence Genepin, bien sûr, pour la préparation, la documentation. Elle assurera d'ailleurs sur notre site internet le soin de mettre tous les rapports et sujets dont nous avons parlé. On fera de même sur Twitter grâce à Alexandra qui va me donner un coup de main. Et on vous salue bien les uns et les autres. On se retrouve donc samedi, comme je l'ai dit. Très très bonne journée à tous. Je n'ai pas cité Jean-Guy Lamège qui assiste. Ghislaine David, salut Jean-Guy Lamège. À samedi prochain.